Bienvenue dans le podcast « Tout se transforme ». Je suis J.S. Klein, consultant auprès des entreprises sur les sujets liés à leur transformation. Dans ce podcast, je vous propose d'aborder toutes les thématiques de la transformation des entreprises, comme le digital, le management ou la RSE. Je serai accompagné d'experts dans ces domaines, mais aussi de professionnels ayant vécu la transformation. Pour m'aider à faire vivre ce podcast, prenez le temps de le partager et d'aller mettre des étoiles et des commentaires dans iTunes. C'est ce qui lui permettra d'être visible et accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires pour me proposer des idées de thématiques, par exemple. Allez, sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Très bonne écoute à tous. On a tous en tête les images de Chaplin dans les temps modernes, qui datent de 1936, et nous paraissent appartenir au passé. Pourtant, c'était il y a moins d'un siècle. Aujourd'hui, la notion de bien-être au travail est au cœur des préoccupations des directions et des services RH des entreprises. Mais le bien-être au travail, c'est une notion un peu floue et qui est souvent très subjective. Alors, pour essayer d'y voir plus clair et de jauger réellement si une entreprise est un lieu où il fait bon travailler, il existe un label qui s'appelle « Great Place to Work ». Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités qui ont travaillé ensemble pour ramener une entreprise au palmarès Great Place to Work. Tout d'abord, Raphaël Pili. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Alors Raphaël, tu travailles pour le cabinet Optimize qui accompagne les entreprises à la certification Great Place to Work en région Rhône-Alpes. Et Fabien Jouvet qui est le patron du groupe Skipper, une entreprise de logistique basée dans le sud de Valence et qui est entré au palmarès Great Place to Work en 2021. Bonjour Fabien.
Et bonjour.
Et félicitations pour le palmarès.
Et merci.
Alors, on va organiser ce podcast en d'abord un petit point au départ plutôt historique pour se dire cette notion de bien-être au travail, d'où elle vient et quand est-ce qu'on a commencé à en parler. Et puis derrière, on rentrera dans le vif du sujet sur Great Place to Work et surtout sur l'expérience de Skipper, comment vous en êtes arrivé à rentrer dans ce palmarès. Donc sur le bien-être au travail, en fait, les premières études, elles datent de 1920. C'est Mayo qui a travaillé sur l'importance des facteurs humains, sur la motivation et la satisfaction. Ceux qui vont avoir sur la productivité. En 1950, Eric Trist expose les limites du taylorisme et son impact sur la productivité et démontre que le bien-être au travail repose sur la capacité de l'entreprise à concilier les dimensions humaines, sociales et techniques du travail. En 1948, on a la création de l'OMS et l'OMS va définir la santé comme étant un état complet de bien-être physique, mental et social, ne constituant pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Et là, on arrive dans les années 90 avec le développement de la philosophie positive de Martin Seligman. On mène des études sur la dimension positive reliée au bien-être au travail, la satisfaction, la motivation, et plus seulement sur les dimensions négatives qui sont liées à la souffrance, type maladie, stress et absentéisme. Et enfin, dans les années 2000, on a des nouvelles exigences sociales, voire sociétales qui arrivent, avec des nouvelles attentes des salariés, et on a une évolution de la perception du travail, de sa place dans la vie, les sources de motivation et d'engagement. Le management doit se réinventer pour s'adapter. Alors bien sûr, le bien-être au travail, ça reste un concept qui est subjectif et qui varie selon les disciplines, le pays, la culture, par exemple, on peut le voir comme une volonté de mieux encadrer les risques professionnels ou comme un levier d'amélioration de la performance, selon par quel prisme on le regarde. C'est aussi subjectif pour les collaborateurs. Et il y a une étude qui montre que 53% des moins de 30 ans mettent en premier l'ambiance et les relations entre collègues quand ils parlent de bien-être au travail, alors que 42% des 50 ans et plus mettent en avant la reconnaissance. Et évidemment, dans ce contexte, le fait d'avoir un baromètre unique qui permettent de déterminer si une entreprise est un lieu où il fait bon travailler, était un élément important. Et c'est là que Great Place to Work est arrivé. Raphaël, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Great Place to Work et ce qui a amené à ce qu'aujourd'hui, en fait, on voit ce label dans énormément d'entreprises?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, au départ, Great Place to Work, c'était un projet américain qui est né il y a 25 ans. L'histoire, c'est qu'un monsieur qui s'appelle Robert Levering voulait écrire un livre sur ce qui expliquait l'échec des entreprises américaines. Donc, il a proposé cette thématique à son éditeur qui lui a opposé un nom immédiat en lui disant « mais je vais avoir une dizaine de procès dès que le livre sera sorti, donc je te challenge plutôt pour inverser le questionnement ». Et je te propose de partir à la recherche du secret de la réussite des entreprises américaines. Donc Robert Levering a pris son petit bâton de pèlerin. Il est parti rencontrer des dizaines d'entreprises américaines de toute taille, de tout secteur d'activité. Et il s'est aperçu qu'elles avaient toutes pour point commun de mettre au cœur de leur stratégie, au cœur de leur raison d'être, l'expérience collaborateur. Donc l'expérience collaborateur, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement de soigner tous les moments qui sont essentiels pour un collaborateur dans la vie qu'il va avoir au cœur d'une entreprise, depuis son recrutement jusqu'à sa sortie. Donc toutes ces entreprises avaient mis au cœur de leur stratégie le soin apporté à l'expérience collaborateur. Donc il a également constaté que dans ces entreprises régnait une culture de la confiance. La confiance était vraiment imprégnée à tous les niveaux hiérarchiques, il y avait vraiment effectivement des relations très vertueuses de ce côté-là. Et il s'est également aperçu que le fait que les collaborateurs soient bien dans leur travail reposait sur la qualité de trois relations. La relation avec la ligne managériale, la relation avec les collègues de travail et la relation avec le travail en lui-même. Donc il a écrit son bouquin qui a fort marché. Et puis ensuite, il s'est dit, je vais créer Great Place to Work et je vais me donner pour mission de construire une société meilleure en accompagnant les organisations à devenir des Great Place to Work pour tous et pour toutes. D'accord. Donc il a créé le cabinet Great Place to Work. Le succès a dépassé la frontière et aujourd'hui, Great Place to Work accompagne les organisations qui veulent devenir meilleures dans 70 pays du monde.
Ok, c'était en quelle année la création de Great Place to Work ?
Dans les années 90, donc à un moment effectivement où le bien-être au travail était à peine murmuré dans les organisations. Mmh. Et effectivement, donc il a été assez novateur en tout cas pour commencer à déployer cela.
Donc le palmarès 2021, ça a été publié en avril dernier, le 13 avril dernier. Parmi les entreprises que tu as accompagnées, toi, tu as quel type d'entreprise ?
Alors, historiquement et même encore un petit peu actuellement, c'est vrai que c'est un sujet dont se sont beaucoup saisies les entreprises nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui imprègne tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs d'activité. Si c'est pas, j'allais dire, à leur propre initiative, c'est quelque chose sur lequel leurs parties prenantes viennent les challenger. C'est-à-dire que maintenant, ça devient effectivement presque une exigence, on va dire, qui est apportée par les candidats, par les investisseurs, par les clients, effectivement, de pouvoir attester de la qualité de son expérience collaborateur.
Ok, l'idée, c'était bien de dresser le panel. Qu'est-ce qui est Great Place to Work, d'où ça vient et pourquoi ça existe aujourd'hui. Mais le plus intéressant dans ce podcast aujourd'hui, c'est d'avoir la chance d'avoir Fabien. Fabien, est-ce que déjà tu peux nous présenter Skipper, ce qu'est le groupe Skipper aujourd'hui et dans quel domaine vous agissez ?
Bien sûr, avec plaisir. Donc Skipper aujourd'hui officie sur deux secteurs d'activité principaux. Un qui concerne l'externalisation logistique, donc métier, et de gérer des plateformes logistiques, de stocker des produits pour le compte de clients et de préparer des commandes plutôt dans le détail et dans une logique multicanale. Donc on sert aussi bien des clients en B2B qu'en B2C. Premier pilier de notre activité et du groupe, la logistique, qui représente aujourd'hui 60% de notre chiffre d'affaires. Deuxième pilier, l'organisation de transport, aérien, maritime et route. Notre métier est de transporter des produits pour le compte de nos clients d'un point à un autre de la planète en utilisant le moyen de transport auprès de nos partenaires, que ce soit des bateaux, des avions, des camions, des trains, des péniches, des fusées.
Voilà. Alors ce qui est vraiment intéressant et pourquoi on en parle aujourd'hui et pourquoi moi ça m'intéressait de rencontrer Fabien et de connaître votre histoire, c'est qu'on, dans l'inconscient, on voit souvent Great Place to Work sur des boîtes qui vont être plutôt dans le tertiaire, alors notamment les boîtes du digital, des boîtes de conseil, de l'assurance. Et moi, j'ai un passé où j'ai bossé pas mal pour des PME, et notamment des PME dans de la logistique, et je trouvais ça intéressant de se dire que cette notion de bien-être au travail, c'est pas une notion qui est réservée aux boîtes du tertiaire et encore moins aux boîtes du digital. Et c'est pour ça que je voulais partager cette histoire, je voulais que vous puissiez en parler pour dire comment vous en êtes arrivé là et qu'est-ce que ça vous a apporté. Du coup, comment vous avez été amené à rencontrer Raphaël ? Quel a été le cheminement qui a fait que vous êtes intéressé à cette question du bien-être au travail et de Great Place to Work ?
Alors, d'abord, déjà, ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier, c'est que... C'est profondément ancré dans ce qu'est Skipper depuis très longtemps et je pense que ça m'a même devancé. Mais en tout cas, moi, je suis ici depuis 1994, donc depuis 1994, c'est fortement ancré dans ma stratégie. Et j'aime les gens. Moi, je fais partie des gens qui aiment les gens et je trouve qu'on passe beaucoup de temps au travail durant notre vie et que c'est qu'un mieux si on peut le voir de mon côté. Donc j'ai toujours été très attaché à ça. Et l'humain a toujours été au centre de mes préoccupations, en plus dans le métier de service où l'humain est très important. Nos équipes de préparation de commandes sont majoritaires chez nous et notre service est produit avant tout par des hommes et des femmes qui composent aujourd'hui l'effectif de Skipper. Donc j'ai toujours eu comme attention particulière que les gens soient bien à mes côtés. Voilà. Et je dis toujours qu'à défaut de pouvoir changer le monde, j'essaie de pouvoir changer le monde de ceux qui m'entourent. Donc je me suis toujours attaché à ça dans ma carrière. Et donc on a fait beaucoup de choses au niveau de l'humain. Et on a grandi, bien entendu, parce que l'entreprise a grandi. On était 15 en 94, on est 350 aujourd'hui. Donc on passe des paliers. Et on m'a toujours dit que de faire ce que je faisais à 15 serait impossible à 200, à 300, à 350. Et je me suis toujours dit que j'allais tordre le cou à cette idée reçue que la croissance était forcément fossoyeur de cet esprit qu'on a monté au début. Donc c'est le terreau de départ. Et on a toujours fait beaucoup de choses au niveau de l'humain. On a beaucoup travaillé l'intégration, on fait beaucoup de mobilité. Plus de 10% de nos équipes changent de job chaque année. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et on a toujours fait ça en interne. Donc on a fait des événements, des questionnaires, des votes, et on était tous très contents parce qu'on était tous très bons, tout le monde était très très content. On avait dernier truc qu'on fait en interne, c'est en 2018, 91% de nos salariés qui disent waouh, Skipper c'est une boîte géniale. Et donc on était fortement ancré là-dessus, et on était plutôt contents de nous sur ces sujets-là parce que les gens nous rendaient bien, et je faisais ça principalement pour les gens. Voilà. Et bien sûr, comme je dirige aussi l'entreprise, j'ai toujours eu la faiblesse de croire que si mes salariés, mes skippers étaient heureux, mais que probablement mes clients le seraient aussi. Voilà, donc c'était un peu ça le truc de départ. Et il se trouve que moi, je suis proche de belles entreprises de Dromoise qui participent au programme Great Place to Work depuis très longtemps. Et ils m'avaient sollicité sur le sujet en disant « viens avec nous ». Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Great Place to Work. Et j'étais pas très chaud au départ.
Vous pouvez me raconter la première fois que vous avez rencontré Raphaël ?
Moi, je me souviens bien. Hein, je me suis assise dans votre bureau et vous m'avez dit, il est hors de question. Ça m'intéresse pas du tout, ces labels. Alors donc, sachez-le.
Ouais, c'est bien d'avoir ça.
J'ai probablement un petit côté provocateur. Donc, madame, c'est pareil. Mais il y avait des vrais trucs là-dessus. C'est que je vis ce collectif comme un truc à nous, et je laisse pas grand monde toucher à ce collectif parce que c'est vraiment la force intrinsèque de l'entreprise. Et je voyais sur ce label déjà plusieurs écueils. D'abord, je voulais pas que la certification soit une fin en soi, et je voulais pas qu'on se mette dans une démarche de collectionner des médailles. Et moi, ce qui m'intéresse en tout, c'est que mes équipes, mes skippers soient bien le matin quand ils arrivent ici. Deux, je voulais pas me faire imposer quelque chose de l'extérieur. Je voulais pas rentrer dans un standard d'une certification quelconque qui me dicte ce que je devais faire en interne, parce que je fais ce métier pour être libre et j'y suis attaché. Et ensuite, j'avais aussi peur aussi de rentrer dans une course à l'échalote sur un classement où le jour où tu commences à amorcer un peu une note un peu moins bonne, on dit ça y est, on a une botte de merde, ça va mal finir. Et donc, ça me faisait un peu peur.
Quel a été le déclencheur ?
Nous, on fait des plans de développement à 3 ans. Et donc tous les 3 ans, on fait des plans de développement avec des objectifs et on a tout le temps un item sur l'humain. Et on sentait que c'était le moment de prendre quelqu'un d'extérieur et qui donne de la légitimité dans ce qu'on pensait depuis longtemps et qui nous dise bah oui, il fait bon travailler chez Skipper. Donc on était chercher un peu de légitimité à l'extérieur.
Le fameux baromètre dont je parlais au départ.
Ouais, parce que c'est bien de dire qu'on est bon, mais c'est quand même mieux si c'est quelqu'un d'autre qui te le dit et que tu puisses te comparer un peu, même si ma démarche initiale pouvait prouver le contraire. J'ai tout de suite été intéressé par la capacité à avoir une photographie de mon entreprise et de pouvoir dresser des plans d'action concrets sur des fonctions RH, fonctions transverses, dont il est parfois difficile d'en mesurer la performance. Et ça m'a intéressé. Et donc, on a lancé notre plan Sequoia 2021 et on a mis comme objectif dans ce plan Sequoia de rentrer au palmarès de Great Place to Work, et sans trop savoir d'ailleurs vers où on allait. Et avec une totale absence d'humilité de ma part, la profonde certitude que ça allait être facile. Quoi. Et j'étais à la progression de mon coup parce que je suis là depuis 27 ans, j'ai embauché tous les gens qui sont dans cette entreprise. La plupart des enfants de mes salariés sont allés à l'école avec mes enfants, donc on se connaît tous par cœur depuis longtemps. Et on a vécu une aventure humaine formidable. Et donc on a fait notre première participation en 2018, donc on a fait le questionnaire.
C'est un questionnaire qui
est c'est un questionnaire qui est adressé à l'ensemble des collaborateurs. Et puis, en parallèle, on mène également un audit des pratiques managériales qui sont réalisées dans l'entreprise, qui permet du coup d'avoir une vision complémentaire de ce qui se fait et de comment c'est perçu par les collaborateurs.
Du coup, Raphaël est arrivé dans les bureaux ici.
Le principe, il est simple. Si je parle sous le contrôle de Raphaël, mais un questionnaire de 64 questions ou 70 questions qui est envoyé de manière anonyme à nos équipes. Et si jamais tu as plus de 70% de tes équipes qui répondent au questionnaire, tu as le droit de jouer le match.
Ok.
Et une fois que tu joues le match, tu as droit à 5 réponses et tu peux répondre toujours vrai, parfois faux, parfois vrai, parfois faux, toujours faux. Il n'y a que toujours vrai et parfois vrai qui comptent pour oui. D'accord ?
Ok.
Et si tu as plus de 70% de réponses positives, tu es certifié.
Alors aujourd'hui, et c'est 65%.
65%, d'accord.
Voilà. 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 Sinon,
donc,
tout est juste.
Donc la mécanique, c'est celle-ci. Et donc, on a le premier questionnaire, je crois que c'était en 2018. Et je me rappelle trop de ce moment où ma DRH est venue dans mon bureau, blanche comme un linge, en me disant « Fabien, nous avons échoué ». On a eu 64% de réponses positives à Great Place to Work, on n'est pas dans l'assertif. Et j'étais super content. Et c'est la surprise d'ailleurs à l'époque. Mais, et j'étais content pour deux raisons. La première, c'est que c'était compliqué. Et j'aime bien les choses compliquées quand même. Et ça aurait été trop facile, probablement que ça aurait eu moins d'importance à mes yeux. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai eu aussi une superbe photographie de ce que les gens pensaient vraiment. Sans filtre et de manière anonyme de ce qu'était Skipper aujourd'hui. Alors bien évidemment, si on veut pas entendre la réponse, faut pas poser des questions. Donc c'est quand même le but du jeu. Et là-dessus, j'ai quelques exemples. Trouvez-vous que le management de Skipper respecte ses engagements? Oui, 48%.
Ouais.
Et ça, c'est chiant. Quoi.
Ça calme un peu. Ouais.
Trouvez-vous que Skipper est une entreprise solidaire? Oui, 52%. Et là, tu te dis, eh ben,
parce que c'était en plein en phase des valeurs, quoi.
Ouais, et on a du job. Et en plus, tu t'aperçois. Alors, donc, du coup, ça c'est 2018. On mène des plans d'action. Et 2019, on repasse la certification. On fait ça sérieusement. On fait des vrais plans d'action. On fait des restitutions auprès de nos équipes. On met en place des plans d'action en commun. On met des ambassadeurs sur chacun de nos sites. Enfin, il y a un vrai boulot qui est fait pour actionner sur les sujets qui ont été notés. Et tu t'aperçois, au final, que c'est souvent mètre par mètre que ça se gagne. Et c'est souvent derrière la question, trouvez-vous que le management de Skipper respecte ses engagements? Quand vous voyez oui, 48%, vous pensez que c'est une catastrophe. Quand vous êtes dans le détail, vous apercevez que c'est parfois des choses qui peuvent vous paraître futiles, mais qui sont très importantes pour nos équipes. Et là-dessus, j'ai un exemple de 2018, c'est préparateur de commande de notre site de la Voulte, qui commande des chaussures de sécurité en septembre 2017, et on est en septembre 2018, il n'y a toujours pas eu.
Ouais.
Donc quand il répond, reçoit la question, trouvez-vous que le management de Skipper respecte ses engagements? Il met non, mais puis il a raison.
Ouais, c'est des détails parfois pour le management, mais qui sont fondamentaux pour les équipes. Ouais.
Et toute la difficulté a été, et sera, et continuera d'être, mais comme toujours, de faire percevoir l'importance au management intermédiaire et plus largement au management dans son ensemble, de ces petites choses au quotidien qui changent la vie des gens. Voilà. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus et on a fait ça sérieusement. Et donc, en 2019, on a repassé le questionnaire. Et là, on a eu 74% de réponses positives. Donc, on a été certifié Great Place to Work avec, si je me trompe pas, de mémoire, une des plus grosses, meilleures progressions de l'année sur les entreprises Great Place to Work. Donc ça a été une première satisfaction et puis on a continué à travailler, on s'est mis dans un processus d'amélioration continue qu'on utilise trop pour nos process de logistique pour nos clients et qu'on aurait utilisé plus souvent aussi pour nos équipes qu'on n'avait pas mis en place à l'époque d'une manière moins structurée et on est repassé le questionnaire cette année, on a de nouveau été certifié avec un taux cette année à 79% avec encore des quelques cailloux dans la chaussure, hein, tout n'est pas parfait, mais en tout cas avec une vraie prise de conscience et surtout, alors c'est aussi une marque de fabrique de chez Skipper, c'est qu'on a toujours été chez Skipper dans une culture de la mesure, c'est qu'on a toujours beaucoup mesuré, mais on n'a jamais mesuré pour de la sanction, on a toujours mesuré pour du progrès,
pour la performance,
voilà. Et on a bien réussi ce truc-là aussi sur Great Place to Work, qui peut être parfois être un défaut de Great Place to Work, il s'agit pas que le management se sente trop pris entre les fourches codines
d'un questionnaire ou montrer du doigt.
Voilà. Donc c'est vraiment un truc collectif. Et donc on a été très heureux cette année encore. Inévitablement que ça nous a fait progresser fortement. Que bien évidemment, je revendique ma posture de départ, parce que je suis fabriqué comme ça et que je peux rien y faire, mais que je referais bien évidemment si c'était à refaire et que ça nous a fait beaucoup grandir sur ces sujets-là et qu'on a encore beaucoup de choses à faire.
Toi, Raphaël, l'expérience que tu as pu avoir en accompagnement avec Fabien, qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce que cette entreprise en particulier t'a appris de nouvelles choses sur la façon dont tu vas accompagner les différentes entreprises sur le process Great Place to Work?
Moi, il y a une chose que Fabien connaît. Hein, c'est vrai que je trouve que ce qu'il y a de spécifique et de très inspirant chez Skipper, c'est ce qu'ils vous appelaient la Skipper Touch, hein, je crois.
La Skipper Attitude,
très exactement.
Depuis, on a anglicisé, on a des B-Skippers, mais voilà, c'est tout ce socle de valeurs. Voilà. Dont personne n'a une vraie définition, parce que je me suis refusé à l'écrire, mais derrière lequel tout le monde se retrouve.
C'est une philosophie globale, ouais.
C'est une philosophie globale qui est palpable dès l'instant, et vous en avez fait l'expérience, hein, Jean-Sébastien, quand tu es arrivé tout à l'heure. Ça se sent tout de suite quand on arrive sur le site. Les gens sont bien, les gens sont chaleureux, les gens sont accueillants. Donc, c'est très palpable.
Il y a une authenticité. Il y a quelque chose de cohérent entre déjà le campus qui est très agréable et très beau, les personnes qu'on va croiser, qui sont souriantes. On sent que tout est authentique et cohérent.
Ce n'est pas propre au campus, c'est surtout nos sites.
Oui.
Donc, vous devez venir sur le campus, mais je vous emmène
sur
nos sites logistiques. Ça sera
pour la petite histoire, comment on s'est gouré évidemment de route et qu'on est arrivé dans un entrepôt avant, on est tombé sur les personnes à l'accueil qui nous ont routé ici et qui étaient aussi très agréables. Donc, oui, c'est un sentiment global. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est pas quelque chose qui s'écrit.
Bah, c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais effectivement du fait que ça marche quand c'est authentique. Mmh. Et cette authenticité, cette démarche qu'a décrit Fabien, on la ressent très bien chez Skipper. Il y a quelque chose aussi, je trouve, d'assez remarquable, c'est la façon aussi dont Skipper valorise ses populations, ceux qui sont effectivement, comme vous le dites souvent, sur des machines, derrière dans les entrepôts, etc. Moi, de toutes les entreprises que j'accompagne, il y a souvent un décrochage de perception entre les équipes commerciales, marketing, qui en général, dans le meilleur des cas, bon, c'est pas toujours le cas, mais ils sont quand même en général plus satisfaites et mieux dans leur travail que les populations de la production, etc., qui sont en général moins mises en lumière alors qu'elles participent à la réussite de l'entreprise. Et chez Skipper, je trouve qu'il y a une vraie capacité, une vraie qualité à mettre aussi en lumière ces personnes-là.
Et c'est vraiment ça l'idée, c'est... pourquoi moi je tenais à ce qu'on le fasse, c'est cette idée comme quoi les entreprises qui ont des personnes qui vont bosser soit dans des ouvriers dans des usines, soit dans du transport, entre guillemets, seraient pas éligibles sur ce type de programme, alors qu'en fait il faut arrêter de catégoriser comme ça. La notion de bien-être au travail, elle est globale.
Alors, elle est globale, tout le monde est éligible, mais je vous assure que de toutes les entreprises que j'accompagne, la capacité à vraiment engager ces populations n'est pas toujours facile.
Oui, mais ça, c'est la culture du patron.
Et c'est exactement ce que je disais, c'est la culture.
Je suis attaché sur les mots, on ne voudrait pas, mais il ne s'agit pas de valoriser nos équipes, c'est tout simplement qu'on aime les gens. Quoi. Parce que je ne voudrais pas que derrière ce mot de valoriser les équipes, il y a des sous-entendus, c'est juste qu'on aime les gens, et quand tu portes le maillot skipper, eh bien, on t'aime pour ce fameux skipper là. Et c'est très important pour nous. Et par contre, il est vrai qu'on a eu la chance d'intégrer le palmarès de Great Place to Work cette année, et que à la lecture du palmarès, on était bien entendu fiers d'être certifiés, bien entendu fiers de rentrer dans ce palmarès, mais on était aussi très fiers de pouvoir positionner l'entreprise dans un secteur d'activité a priori méconnu de ces certifications. Loin des bureaux cossus des mondes de l'informatique ou du digital ou du conseil. Aujourd'hui, sur 350 skippers aujourd'hui qui portent le maillot, il y en a bien 280 qui sont sur des chariots élévateurs et qui ont une vie souvent bien lointaine de ce que l'on peut imaginer dans des salons un peu plus cossus, et qui pour autant prennent plaisir à travailler au quotidien et de porter le sens qu'on veut leur faire porter aujourd'hui, auxquels ils adhèrent. Et là-dessus, moi, j'ai quand même aussi une belle histoire à raconter sur le sujet. J'ai plusieurs sites logistiques, nous avons plusieurs sites logistiques, et la qualité des plateformes logistiques en termes d'immobilier est parfois un peu disparate. On a un site à Livron, qui est un site historique du groupe, construction un peu ancienne, avec des conditions de travail qui sont parfois rudes, l'hiver notamment. Et bien, Livron est arrivé le premier site en 2018 en termes de bien-être au travail. Parce qu'il y a une vraie dynamique là-bas aussi, malgré des conditions qui sont parfois un peu plus dures l'hiver. Il y a une vraie proximité, il y a une vraie vie sur ce site. Et donc, ce n'est pas parce que tu as de la moquette et des bureaux climatisés que tu es forcément plus heureux que les autres.
Est-ce que pour toi, sans minimiser l'importance des conditions de travail, mais est-ce que parfois, on n'a pas eu tendance à mettre trop l'accent sur le fait de soigner les conditions de travail au détriment justement d'apporter du sens, de créer une culture globale, de justement respecter l'humain. Est-ce que c'est pas une dérive qui est arrivée dans certains milieux ?
C'est plus facile de mettre du chauffage que de t'occuper des gens. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est plus facile. Je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, ça paraît plus facile et plus atteignable, de t'occuper vraiment des gens et de s'occuper de leurs préoccupations et de les écouter, c'est ça. Et c'est aussi ça que permet Great Place to Work. Et une fois que tu les as écoutés, encore faut-il les entendre. Donc c'est tout ça tes démarches. Et on est là-dedans depuis longtemps et on espère pour longtemps.
Est-ce que le fait d'avoir fait ce parcours-là, alors c'était quelque chose qui existait dans l'ADN de Skipper au départ, mais le fait d'avoir avancé dans ce programme-là, au-delà de la satisfaction des collaborateurs et de leur bien-être, est-ce que ça a apporté aussi du plus sur la partie business, sur par exemple la diminution du turnover ou de l'absentéisme, de choses comme ça ?
On a toujours fait de la croissance, on n'a jamais eu d'absentéisme, ou pas beaucoup, voilà. Donc, donc c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Alors, moi, je suis intimement convaincu que c'est un des marqueurs importants de la croissance et de la bonne santé économique de l'entreprise. Par contre, c'est difficile à prouver, mais je pense que c'est ça avant tout. Quoi.
C'est la phrase que tu montrais tout à l'heure sur le mur à l'entrée.
Don't build business, and then build business.
Ouais, c'est ça. Ok.
Tu disais après. On aurait pu la faire en français, mais.
Non, je disais qu'effectivement, aujourd'hui, on a des chiffres assez précis sur justement le fait que se préoccuper, Great Place to Work ou pas Great Place to Work, en tout cas se saisir du sujet de l'expérience collaborateur, a des répercussions, non seulement en termes de réduction de coûts d'absentéisme, de turnover, etc. Je crois qu'il y a une étude qui, elle doit dater de 3 ans, mais qui chiffrait le coût du désengagement à 12 500 euros par collaborateur par an. Donc c'est juste énorme. Et donc se préoccuper effectivement de l'expérience collaborateur, non seulement ça vient réduire ses coûts, et puis après effectivement ça fait progresser un certain nombre donc, d'items, dont par exemple la performance client, hein, la satisfaction client dont Fabien parlait tout à l'heure. Aujourd'hui on sait mesurer que plus 2 points de satisfaction des collaborateurs, qu'on pourrait d'ailleurs requalifier de client interne, équivaut à plus 1 point de satisfaction client. Et c'est assez logique en fait, parce qu'un collaborateur qui est bien dans son travail, par définition, il sera plus performant et par définition, il aura à cœur de rendre un meilleur service auprès du client qui, du coup, sera plus satisfait.
Ouais, c'était le bouquin les employés d'abord, les clients ensuite.
Oui, de Vignette Naillard.
Ce truc-là.
Et aimer les gens et vous le rendront.
Hein. Mais c'est ça, ça paraît être du bon sens et pourtant, en fait, on est obligé d'écrire des bouquins dessus.
Je suis toujours assez mal à l'aise avec le fait de vouloir quantifier absolument les résultats que procure ça, parce que c'est compliqué à mesurer. Je trouve qu'assez souvent, ça te fait t'éloigner du but principal, que les gens soient bien. Quoi. Mmh. Et après, est-ce que Skipper fait la croissance depuis 25 ans sans s'arrêter? Pour quelle raison? Est-ce qu'on peut dire être heureuse de notre travail? Je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, de vivre quelque chose, c'est important. Et donc ça, c'est sur le passé. Mais moi, je parle aussi pour l'avenir. C'est que aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des enfants qui ont entre 26 et 24 ans. T'as vite compris que tu les feras pas travailler comme on travaillait nous, quoi. Donc, il va bien falloir réinventer nos modèles, nos entreprises, et tu les mettras plus dans un Algeco non climatisé, sans un parking, sans leur parler, et sans doute, sans non plus leur donner le sens dont ils ont besoin quand ils se lèvent le matin. Parce que, voilà. Donc, c'est aussi ça, donc, c'est pas que ce qui passe avant, c'est aussi cette projection pour demain où il faut qu'on fasse bouger des lignes, quoi. Les nouvelles générations, elles sont pas foutues comme nous,
hein. C'était la dernière question que j'avais, c'était justement, un petit peu comment est-ce qu'on voit l'avenir et comment on avance sur l'avenir là-dessus, mais ça y répond en partie, puisque l'idée, c'est de se dire on va s'adapter au monde dans lequel on est en train d'arriver. Et c'est un petit peu ça ce que vous avez fait chez Skipper.
Ouais, et toujours avec la volonté aussi de ne pas se laisser non plus totalement emmener vers quoi il voudrait aller, qui peut parfois être à mes yeux beaucoup trop individualiste, beaucoup moins collective. J'ai aussi envie de positionner Skipper dans une dynamique qui puisse correspondre aux attentes des nouvelles générations, mais aussi avec l'envie de leur faire prendre conscience que l'entreprise et la vie est avant tout collective.
Ouais, ouais, c'est une bonne philosophie.
Et que c'est pas que du télétravail et que chacun pour sa gueule.
Ouais. C'est effectivement une bonne façon de voir. On arrive au bout de l'épisode. J'ai une question que je pose systématiquement à chaque épisode, donc je vais vous la poser chacun à votre tour. La question est, si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez transformer ce que vous vouliez avec cette baguette, qu'est-ce que vous en feriez? On va commencer par Raphaël.
Donc appliquer la qualité de vie au travail, bien sûr.
Ah, pas forcément, c'est de façon générale, de façon globale. Attention, la réponse Miss France n'est pas acceptée. La paix dans le monde.
C'est quoi? Oui, c'est ça, la réponse Miss France. De toutes les entreprises que je peux, que je peux accompagner, je trouve qu'il y a souvent, malheureusement, une espèce de scission, de coupure entre la tête en haut et les équipes en bas. Et c'est souvent en fait une difficulté de communication, en fait, tout simplement. Ils ont du mal à se parler, ils ont du mal à s'écouter, ils ont du mal à s'entendre. Donc, si j'avais un petit coup de baguette magique à donner, ça serait ça. Ça serait effectivement casser cette espèce de silo qui effectivement fait qu'aujourd'hui il y a des organisations dans lesquelles il y a des personnes qui pensent, mais finalement il y a une espèce de scission avec ceux qui sont en bas et ils n'arrivent plus à se rencontrer en fait, alors qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Ils ont ceux d'en haut ont besoin de ceux d'en bas, de façon un peu caricaturale, mais pour effectivement diriger de façon stratégique l'organisation. Et les collaborateurs ont besoin effectivement de têtes aussi stratégiques qui vont faire avancer le bateau. Mais voilà, cette espèce de scission que je rencontre dans beaucoup d'organisations, voilà, si un petit coup de baguette magique me permettait de la casser et de renouer un peu en termes de communication, voilà, ça serait déjà pas mal.
D'accord. Fabien, la baguette ?
C'est forcément business ou...
Ah non, c'est ce que tu veux.
Parce que moi, j'ai toujours rêvé d'un truc, c'est la téléportation. Ouais,
d'accord.
Un truc, ouais, moi, si je pouvais me téléporter et que les gens qui m'entourent puissent téléporter, ça me ferait marrer.
Très bien pratique. Donc, un appel aux physiciens, développer la téléportation. Aussi bien l'un que l'autre, où est-ce qu'on peut vous retrouver s'il y a des auditeurs qui sont intéressés pour vous suivre ou vous contacter ?
Eh bien, écoute, moi, je suis sur les réseaux sociaux, Optimize Conseil.
Ouais.
Donc, sur LinkedIn, vous pouvez nous trouver évidemment sans problème. Et puis, si vous voulez effectivement éventuellement repasser par Great Place to Work, vous contactez le chef social de Great Place to Work qui me passera votre contact puisque j'ai la chance de représenter Great Place to Work sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.
D'accord. Et Fabien, j'imagine le site web, le réseau, les réseaux sociaux.
Alors, il se trouve qu'on a plein de jeunes avec nous qui dynamisent notre communication digitale. Donc, on est bien évidemment présents sur le réseau et pour ma part, bien sûr, sur LinkedIn.
Super. C'est la fin de cet épisode. De notre côté, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Tout se transforme. D'ici là, vous pouvez évidemment interagir sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn ou sur le site Tout se transforme. Si vous avez aimé cet épisode, évidemment, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à mettre des étoiles partout, sur iTunes notamment. Merci à tous de nous avoir écoutés. Un merci spécial à Anaïs qui est en stage avec moi et qui tenait les manettes aujourd'hui. À très bientôt. Salut.
Merci.
Au revoir.